VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est 11h à Conakry, midi à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. Au Burundi, poursuite des manifestations contre un troisième mandat pour le président Pierre Nkurunziza. Un militaire a été tué hier et un civil blessé par un officier des services de renseignement à Bujumbura. Le point avec Georges Léonard Sagno.
Des manifestants venus du quartier de Moussaga voulaient converger vers le centre-ville. Un officier des services de renseignement a ouvert le feu près d'une barricade, tuant un militaire et blessant un civil. Les protestataires avaient arrêté son véhicule car les agents du Service national de renseignement, rattachés à la présidence, sont très redoutés. Le véhicule a été incendié. Dans le quartier Runanira, 9 opposants à un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza ont été blessés dans de nouveaux affrontements avec la police. Par mesure de prudence, le gouvernement a fermé les résidences universitaires officiellement pour des problèmes de sécurité. Un émissaire américain et un envoyé onusien sont à Bujumbura, la capitale, pour tenter de trouver une solution.
Crise en RCA, le gouvernement de transition essaie de convaincre les Centrafricains réfugiés à l'étranger de rentrer chez eux, alors que la Centrafrique s'apprête à lancer lundi prochain à Bangui le forum de réconciliation nationale. Mais la tâche n'est pas facile, comme en témoigne ce reportage du correspondant de la Voix de l'Amérique au Cameroun, Moki Edwin Kinzeka, qui a suivi un émissaire centrafricain dans un camp de réfugiés. Les grandes lignes de son reportage avec Timothée Donangmaï.
Belmond Ouzé, un leader religieux de 35 ans, est un émissaire centrafricain. Malgré ses explications sur le forum de Bangui et les espoirs suscités par la rencontre, il a du mal à convaincre les réfugiés qu'il a rencontrés à Yaoundé. L'un d'entre eux, le laveur de voiture Anselme Blaise Kaminga, est encore traumatisé par le meurtre brutal de sa femme et de ses enfants à Bangui. Et il n'est pas intéressé par une réconciliation qui, selon lui, pourrait aboutir à la liberté pour les responsables de l'effusion de sang. Le vigile David Zamgan est un ancien étudiant de l'université de Bangui. Pour lui, le plus important, c'est un gouvernement crédible pour entamer le processus de guérison des plaies dans le pays plutôt qu'une initiative de la communauté internationale.
En Centrafrique même, de graves accusations de viol et d'agressions sexuelles sur des enfants de 9 à 11 ans ont été portées contre des militaires français. Des éléments déployés dans le cadre de l'opération Sangaris sont soupçonnés d'avoir abusé sexuellement des enfants durant leur mission à Bangui. Félix Yepassi Zembrou.
L'affaire qui faisait l'objet d'un document confidentiel de l'ONU transmis aux autorités françaises a été dévoilée cette semaine par le quotidien britannique The Guardian. Elle remonte à décembre 2013 et juin 2014, période durant laquelle les violences intercommunautaires entre les miliciens anti-Balaka et l'ex-rébellion Séléka ont poussé des milliers de civils à se réfugier sur le site de l'aéroport international de Bangui Mpoko sous contrôle des forces de l'opération Sangaris. Réaction du procureur de la République, Ghislain Grézingué, joint à Bangui.
La justice centrafricaine tient à ce que la lumière soit faite sur cette situation qui constitue quand même des faits d'une extrême gravité. Pour ce faire, le parquet vient d'ouvrir automatiquement une enquête afin de chercher à faire la lumière et d'établir les responsabilités.
Si les faits sont avérés, la justice centrafricaine prendra contre les auteurs toutes les mesures qui s'imposent, a souligné le procureur de la République, Ghislain Grézingué.
Mais si les faits s'avéraient exacts, vérifiés, mais vous savez que la procédure que nous déclenchons au niveau du parquet, c'est pour permettre à ce que l'action publique aille jusqu'au bout. Nous nous disons que notre procédure doit conduire au prononcé d'une peine, une sanction pénale pour sanctionner les auteurs de cet acte ignoble.
Pour sa part, le président français François Hollande a assuré qu'il sera implacable si certains militaires se sont mal comportés en Centrafrique.
Si certains militaires, je n'en sais pour l'instant pas plus, s'étaient mal comportés, eh bien, il y aurait des sanctions qui seraient à la hauteur de la confiance que nous portons à l'égard de l'ensemble de nos armées. Parce que moi, je suis fier de nos armées et donc implacable à l'égard de ceux qui se seraient mal comportés, si c'est le cas en Centrafrique.
Les accusations ne donnent aucun nom. 14 soldats français sont soupçonnés d'être impliqués. Parmi ces militaires, très peu ont été identifiés, indiquait une source judiciaire à l'agence France-Presse sans en dévoiler le chiffre précis.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Nigeria, l'armée affirme avoir libéré 150 autres otages du groupe islamiste Boko Haram, sans enfants et 50 femmes retenues en captivité dans la forêt de Sambisa, proche de la frontière camerounaise. Mardi, un premier groupe de 200 filles et 93 femmes avaient déjà recouvré la liberté dans le cadre de cette même opération, selon les autorités nigérianes. Et puis au Niger, les habitants des îles du lac Tchad doivent s'exiler pour éviter de nouvelles attaques de Boko Haram. C'est ce que recommandent les autorités locales après l'assaut de Boko Haram samedi dernier, qui a fait au moins 74 morts civils et militaires dans l'île nigérienne de Karamga. Par ailleurs, en ce jour de 1er mai au Niger, les travailleurs prient au lieu de faire la fête pour marquer leur compassion aux victimes de l'attaque de Boko Haram contre l'île de Karamga. Le traditionnel défilé du 1er mai, fête du travail, a également été annulé. Reportage de notre correspondant à Niamey, Abdoul Razak Idrissa.
Il n'y aura pas le traditionnel défilé des travailleurs ce 1er mai 2015 sur l'ensemble du territoire national. C'est la décision prise par les responsables syndicaux du pays pour marquer aussi leur compassion après la plus meurtrière attaque de la secte islamiste Boko Haram contre une position des forces de défense et de sécurité du Niger le samedi 25 avril dernier. Jibrila Idrissa et Sako Mamadou, responsables des deux plus grandes centrales syndicales du pays.
Après analyse, nous avions dit, à lieu et place du défilé du 1er mai, nous allons organiser des prières collectives, aussi bien à Niamey qu'à l'intérieur du pays. Pour le cas de Niamey, nous envisageons d'organiser cette prière collective au niveau de la grande mosquée.
Nous avons jugé utile, comme c'est des fils du Niger qui sont tombés sur le champ de l'honneur, d'aller faire des prières collectives. Ici à Niamey, on a demandé à tous les militants de converger vers la grande mosquée à partir de 8 heures pour prier pour le repos de l'âme de nos illustres disparus.
Ce vendredi 1er mai coïncide en effet avec le troisième et dernier jour du deuil national décrété par le gouvernement. Le pays fait face également à une grave épidémie de méningite. Salamatou Mariko et Al-Mustapha Moussa, deux responsables syndicaux.
Unanimement, nous nous sommes retrouvés pour dire que non, nous n'allons pas défiler parce que nous n'allons pas faire une fête, nous n'allons pas avoir des liesses pendant que notre pays est en deuil, pendant que nos frères, nos enfants sont sous terre et pendant qu'il y en a d'autres qui triment sous le soleil et cherchant à protéger nos vies.
Indépendamment de cette attaque, vous n'êtes pas sans le savoir qu'aujourd'hui, c'est aussi une épidémie de méningite qui est en train de faire des ravages. Nous allons prier pour que Allah continue à sauver ce pays de tous ces actes malheureux auxquels on est en train d'assister.
La transmission des cahiers de doléances sera aussi faite par voie administrative en lieu et place de la cérémonie à laquelle elle donne lieu chaque 1er mai. Abdoul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Actualité américaine, à Baltimore, les autorités appellent au calme et à la patience alors que la population s'interroge sur le contenu du rapport de la police sur la mort d'un jeune noir, Freddie Gray, après son interpellation par des policiers. Des précisions avec Jean-Roger Bion.
Le chef de la police, Anthony Batts, a indiqué hier que l'équipe chargée d'enquêter sur la mort de Freddie Gray a remis son rapport au bureau du procureur de l'État du Maryland. Freddie Gray, âgé de 25 ans, est décédé le 19 avril après avoir été arrêté et embarqué dans un fourgon de la police. Plusieurs enquêtes, dont l'une par le ministère fédéral de la Justice, ont été ouvertes pour déterminer les circonstances de sa mort. Depuis, des manifestations ont eu lieu à Baltimore, puis se sont répandues dans plusieurs villes américaines pour dénoncer les violences policières. Le maire de Baltimore a décrété un couvre-feu nocturne d'une semaine entre 22h et 5h du matin.
Et pour terminer, conflit au Yémen, l'Arabie Saoudite dit avoir repoussé une incursion des rebelles chiites houthis hier soir dans le sud de son territoire. Selon Riyad, des dizaines d'assaillants ont été tués par l'armée et l'aviation du royaume wahhabite. Trois militaires saoudiens ont également péri. Les autorités saoudiennes précisent que les rebelles chiites ont attaqué plusieurs postes frontières dans la province de Najran. Voilà, c'est tout. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com et également sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info.